Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afen. On en est aujourd'hui au numéro 404. Hein, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème informatique, mais c'est bien le 404. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre odyssée sur les gens qui écrivent, qui prennent le temps de se poser pour poser leurs pensées et qui écrivent un ouvrage. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui est du Canada. Et du Québec peut-être, elle nous le dira. Delphine Le Serre. Alors Delphine Le Serre a écrit un ouvrage qui est The Future of Human Intelligence. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que c'est la fin de l'humanité, comme certains le proposent? Est-ce que c'est le début de quelque chose d'autre? Tout ça reste ouvert avec une professionnelle qui va nous en parler. Bonjour Delphine.
Bonjour Stéphane.
Eh bien Delphine Le Serre, alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage d'abord?
Alors d'abord, si tu permets, je vais commencer juste par préciser un élément. Moi, je suis originaire de la Bretagne parce que comme vous l'entendez ou comme vont l'entendre les auditeurs, puis ça s'entend très rapidement lorsqu'on vit au Québec, je suis française. Mais effectivement, aujourd'hui, je vis au Canada et plus précisément à Montréal, au Québec, depuis 6 ans. Voilà, c'était juste la petite précision. Alors, pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Écoute, j'avais pas prévu d'écrire un livre. J'ai écrit ce livre parce que, au fur et à mesure des conférences que j'ai été amenée à donner et sur lesquelles j'ai été pour toutes invitée depuis mai 2023, depuis que l'UNESCO m'a désignée experte IA et éducation et que ils m'ont envoyée en Inde pour participer au débat du G20 sur l'intelligence artificielle générative. Depuis mai 2023, j'ai donné plus de 200 conférences et au fur et à mesure, à l'issue de ces conférences, j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient où elles pouvaient trouver mon livre. Et puis, en question préliminaire, si j'avais écrit un livre. Donc, je n'ai pas encore pris le temps d'écrire un livre, il est en cours de rédaction, je m'y suis mise véritablement, donc dans un premier temps vraiment pour répondre à la demande de ces personnes qui assistaient à mes conférences et qui semblaient trouver un écho aux éléments de réflexion et puis à quelques éléments de réponse que je mobilise dans mes conférences sur ce sujet. Qui, comme tu le citais, est l'avenir de l'intelligence humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre.
Très, très bien. Et donc aujourd'hui, il est disponible en librairie.
Alors aujourd'hui, il est disponible dans quelques librairies, mais pas encore de manière, systématique et uniforme sur le territoire francophone. Mais ça ne saurait tarder parce que j'ai eu la chance d'avoir quatre grandes maisons d'édition qui se sont intéressées à l'ouvrage. Et tu vois, pour être transparente avec toi, la semaine prochaine, je devrais avoir un retour de la part de deux de ces grandes maisons d'édition pour le distribuer et qu'il soit accessible en France, en Belgique et en Suisse, dans toutes les librairies sur le territoire.
Très bien. Donc, de toute
Donc en
façon, quand.
attendant, pardon, donc
Voilà.
en attendant, il est disponible sur Amazon.
Voilà, exactement. De toute façon, on peut toujours le commander. Et même si on va dans les librairies, eux peuvent le commander, hein, pour ceux qui ont encore cette habitude. Donc, pas de souci, sinon tout le monde utilise Amazon principalement. Donc, ça, c'est top. Alors, si on devait résumer ton ouvrage, tu dirais, c'est quoi ta position par rapport à l'IA? C'est une révolution ou c'est quelque chose, une évolution?
Alors, il y a deux questions dans ta question. Si on devait résumer mon ouvrage, et puis quelle est ma position par rapport à l'IA, et puis les sous-questions sur révolution et évolution. Je vais peut-être commencer par justement si on devait résumer l'ouvrage, parce que ça répond à ta deuxième question sur quelle est ma position par rapport à l'IA. Si je devais résumer l'ouvrage que j'ai rédigé, déjà, c'est un voyage. C'est un récit, en fait, que j'ai rédigé. Pourquoi c'est un récit? Parce que j'ai voulu, tout comme je le fais dans mes conférences, rédiger un récit dans le temps entre le passé, le présent et le futur, donc un futur proche 2027-2030 et puis un futur un peu plus éloigné 2050, dans lequel je projette en fait tant les sociétés humaines que les différents secteurs industriels. Qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur de cet ouvrage? C'est que dans le passé, et pour moi c'est important de revenir dans le passé, pour revenir sur finalement les origines de l'intelligence artificielle. Parce que je pense que si on veut déjà aujourd'hui dans le présent bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et pouvoir d'un point de vue personnel se faire une idée, justement, tu vois, une position personnelle sur les bénéfices et les alertes ou les risques que peuvent représenter également l'intelligence artificielle, il faut comprendre déjà ce qu'est
L'origine,
cette...
tu le poses où? En 56?
Non, alors moi je remonte en fait à l'Antiquité.
D'accord, très
Puisque
bien. Oui.
c'est important pour moi que les auditeurs ou les lecteurs comprennent que l'intelligence artificielle, elle prend naissance dans un courant qui est un courant qu'on appelle le biomimétisme, qui est un courant qui existe depuis des siècles et qui était déjà mis en place à l'époque des philosophes grecs, à l'époque des premiers, entre guillemets, scientifiques, des Aristote, Archimède, qui... ont cherché à imiter la nature à travers des créations qui prenaient la forme par la main de l'homme. Donc c'est le biomimétisme, c'est ce qui nous a amené au fur et à mesure de notre histoire, et c'est ce qui a amené des personnes qu'on a caractérisées comme des génies, comme Léonard de Vinci ou autres, à concevoir des systèmes. Qui se sont basés sur la nature, mais qui visaient à reproduire des fonctionnalités ou des caractéristiques de la nature dans des objets inorganiques créés par la main de l'homme. C'est ce que fait Léonard de Vinci à la cour du roi François Ier quand il construit un lion automatisé, etc. Et puis on retrouve également ce courant du biomimétisme dans la littérature à travers l'ouvrage qui a été cité de nombreuses fois depuis l'arrivée de l'IA générative, qui est l'ouvrage de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne,
Bien
où
sûr.
on a ce docteur Frankenstein qui cherche justement à imiter la nature en recréant avec des câbles électriques et avec des morceaux de cadavres humains un être pas humain, mais un être robotisé, mécanisé.
À
Voilà.
redonner la vie, puisqu'à l'époque c'était l'électricité qui était source de vie dans la
Tout à
philosophie de
fait.
l'époque. D'où
Oui.
le tonnerre qui va permettre de créer la vie. Et donc, mais c'est le vieux rêve
Exactement.
aussi, pas forcément du biomimétisme, mais aussi peut-être de d'être Dieu, le golem, etc. Je crée à partir de rien pour pouvoir être Dieu et de créer la vie.
Complètement. C'est la. Alors, ça va plus loin que la curiosité humaine. C'est la fascination, je pense, des êtres humains pour la création de ce que nous sommes et la recherche de duplication. Et puis, c'est ce qui est incarné en quelque sorte à travers cette image, moi, que j'ai. Avec laquelle j'ai un peu de réticence, tu sais, on en a vu beaucoup au cours des dernières années, qui est une espèce de réplique de cette fameuse peinture de Michel-Ange qui orne le plafond de la chapelle Sixtine, où on a Dieu, ou en tout cas l'image de Dieu qui, avec son doigt, touche quasiment le doigt de l'homme et qui est la représentation de la transmission de la vie et ou de la connaissance, parce que la représentation de Dieu et puis de son manteau autour et la représentation finalement d'une coupe sagittale. Et donc si on considère que l'intelligence se concentre à travers le cerveau, eh bien c'est vraiment la transmission de la connaissance. Puis on a beaucoup vu au cours des dernières années un doigt humain quasiment à la place du doigt de Dieu, et puis de l'autre côté un doigt mécanique d'un humanoïde, et puis cette fameuse scène répliquée. Je suis toujours mal à l'aise, moi, face à cette scène qu'on a transposée, parce qu'elle est lourde de sens. Elle est très, très lourde de sens, et je pense qu'elle est utilisée sans véritablement bien comprendre les implications derrière, parce que ça questionne. Voilà, c'est sur l'ensemble des questionnements. Et puis donc pour finir, tu vois, sur le livre, effectivement, donc dans l'historique, après j'arrive à ce point d'inflexion, hein, de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment ce point d'inflexion qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ensemble des scientifiques, finalement, sur la scène internationale, prennent connaissance de l'horreur de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, qu'il naît alors un consensus dans la communauté des chercheurs, notamment en sciences comportementales de l'époque, qui est qu'il est indispensable de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain et comment des êtres humains prennent des décisions. Mais qu'à cette époque, en fait, malheureusement, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau humain. Et le paradigme d'étude des comportements humains à l'époque, c'est un paradigme qui ne permet d'étudier que ce qui est observable. Donc on peut observer des réflexes, et puis des comportements, je lève la main droite, etc. Je deviens tout rouge, je m'énerve. L'imagerie médicale n'existe pas à cette époque, et par conséquent, on ne peut pas étudier le cerveau. Et donc pour étudier le cerveau, il va falloir utiliser un modèle. Et c'est là qu'en fait, l'informatique, ce qu'on appelle les sciences computationnelles, vont commencer à se mélanger avec les sciences comportementales, ce qu'on va appeler par la suite les sciences cognitives, puisqu'on va utiliser le modèle d'un processeur d'ordinateur pour modéliser le fonctionnement du cerveau humain. Et puis c'est là que naissent les sciences cognitives, puisqu'elles sont basées sur le principe que le cerveau humain fonctionne de la manière d'un processeur d'ordinateur. Et voilà, et c'est là véritablement que on a la genèse de l'intelligence artificielle, où on va chercher, par transfert de connaissances d'un domaine, sciences comportementales, études du cerveau, à un autre domaine qui est les sciences computationnelles, où elles vont dialoguer pendant plus de 70 ans, avec un objectif qui va être de reproduire ou d'imiter de manière artificielle les fonctions cognitives humaines. Et c'est comme ça qu'on développe l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que j'explique dans ce livre, en essayant d'emmener le personnage de point d'arrimage clé, hein, parce que c'est un voyage d'escale en escale, d'arrimage clé en arrimage, pour qu'il puisse mieux comprendre et du coup se projeter sur les enjeux actuels.
Exactement. Même si à l'époque, par exemple, Ramón y Cajal, c'est fin 19e siècle, donc elle a expliqué la connaissance, mais ce n'était pas rentré dans un paradigme. Il a fallu le rapprochement avec la technologie et l'informatique, les neurosciences, pour arriver à mixer tout ça, pour avoir un autre regard. Donc c'est très, très intéressant et j'aime beaucoup cette mise en perspective que tu proposes. Ça évite d'être dans l'instant présent. Alors si on reste dans l'instant présent, aujourd'hui, finalement, le 30 novembre 2022, ChatGPT apparaît. Est-ce que c'est le début de l'IA?
Non, c'est pas le début de l'IA. Non, 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 parce que l'intelligence artificielle, à proprement parler, elle avait déjà, elle était déjà expérimentée dans des laboratoires de recherche depuis les années 50, depuis qu'on a commencé effectivement à explorer cette capacité à imiter des fonctionnalités cognitives humaines. Ensuite, on a une accélération dans les années 80-90, parce que justement, on accède à l'imagerie médicale, ce qui nous permet d'identifier que le cerveau humain est constitué de neurones, avec donc des axones, des synapses qui libèrent des neurotransmetteurs, qui transmettent les informations, etc., etc. Et puis bah, ça, c'est extraordinaire, et on va essayer de reproduire, d'imiter ces fonctionnements sur des plaques de silicium, que sont qui est la base des microprocesseurs. Et puis là, il y a une deuxième révolution, mais cette fois-ci technologique, qui va venir nous aider à développer, à améliorer l'efficacité de ces premiers systèmes d'intelligence artificielle, entre guillemets, qui étaient assez rudimentaires à l'époque et qui étaient limités en termes de puissance de calcul. Ce qui va nous permettre d'augmenter la puissance de calcul, c'est le fait qu'on va pouvoir miniaturiser les transistors, qui sont un composant enfin, qui est devenu microélectronique, donc d'une très petite taille, 10-6, Et le fait de pouvoir les miniaturiser, bah, ça nous permet d'en mettre un plus grand nombre sur une même surface. Et puis ensuite, on va pouvoir progressivement encore diminuer leur taille et arriver à des technologies de l'ordre du nanomètre, donc du 10-9. Et puis, bah, plus on diminue leur taille, leur surface, bah, plus on peut en mettre sur une même surface. Et puis, bah, à ce moment-là, plus on augmente la puissance de calcul parce que un même transistor peut toujours a toujours la même puissance de calcul et où on peut l'augmenter. Et puis, alors là, c'est extraordinaire parce que on commence à avoir des résultats extrêmement significatifs en matière de traitement de la donnée mathématique, de la donnée quantitative. Et c'est là où on a, donc avant 30 novembre 2022, on a déjà dans les années 2012-2013 les premiers résultats sur les IA qu'on appelle de reconnaissance. Les premières solutions d'IA qui ont été développées étaient des solutions d'IA qui visaient en quelque sorte à imiter une fonction humaine cognitive qui est positionnée au niveau du lobe temporal gauche chez les êtres humains, qui est l'aire de Wernicke. Cette aire de Wernicke, c'est une aire qui est extraordinaire, qui nous aide à reconnaître un certain nombre d'éléments, qui nous aide à reconnaître par exemple les images, les courbes, et c'est dans la faculté de reconnaissance en fait humaine, c'est la faculté de donner un sens. C'est ce qui nous permet de donner un sens à un dessin, et donc du coup par exemple d'associer à des lettres, puis à des mots, à des chiffres, et où à tout ce qui nous entoure, on est capable de donner un sens à ce que l'on voit en 2D, en 3D. Et donc on a été capable effectivement de développer des systèmes informatiques hein, qu'on a appelés des IA de reconnaissance qui ont été qui ont produit des résultats intéressants 2012-2013 pour reconnaître des images, pour reconnaître des sons et pour reconnaître des textes. Donc c'est-à-dire donner un sens à des images, donner un sens à des sons et donner un sens à des textes. C'est le fameux labelling, ticketing, mais qui était déjà une étape significative. Et puis, par-dessus ça, progressivement, on a développé les solutions d'IA dites génératives entre 2012-2013 et 2017-2019. Donc, c'est sorti effectivement en grand public 2022, mais c'est vraiment en 2017-2019 qu'on commence à avoir des résultats déjà extrêmement intéressants. Et puis là, on est.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, avec ChatGPT, c'est qu'on sort du laboratoire et des prototypes et on rentre dans la société, ou
Oui,
pas?
complètement. Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Accéléré, tu vois là, par. Et c'est ce qui a permis vraiment aux machines de progresser, hein, et du coup aux modèles d'affiner les résultats. Hein, parce qu'on est sur des modèles probabilistes, hein, donc on reste sur bah, plus tu as de données, plus meilleurs sont tes résultats. Donc tout ça. Accélérée grâce à l'accès à la donnée qui était devenue massive, donc grâce au développement du cloud, donc de l'ensemble des systèmes de cloud qui nous ont permis d'avoir un accès à des données qui ont été de plus en plus nombreuses avec la démultiplication des objets connectés. Et puis bien évidemment aussi combiné avec la Covid qui a fait qu'on a eu une digitalisation accélérée entre 2019 et 2022. Donc c'est sûr que tous ces éléments combinés on nourrit énormément les modèles et on fait qu'on arrive en 2022 avec des premières solutions qui commence à être extrêmement significative pour générer. Et cette capacité de générer sens que possède ChatGPT, c'est une imitation de l'aire de Broca, qui est située au niveau du lobe frontal et qui permet aux êtres humains de générer notamment des sons. Hein, on sait que si on a si malheureusement on est victime d'un accident et puis qu'on a une lésion au niveau de l'aire de Broca, on peut souffrir d'une aphasie avoir des difficultés ou parfois ne plus pouvoir parler correctement. Et donc les solutions de génération, donc générative, elles génèrent des sons, elles génèrent des textes, elles génèrent des images. Donc c'est pour ça qu'on les appelle génératives parce qu'elles génèrent, c'est la capacité à communiquer. Qui a été transmise ici aux machines à communiquer avec les êtres humains dans nos propres langages, nos langages écrits, nos langages oraux. et nos langages figuratifs à travers les images.
Absolument. Donc ça donne, finalement, ça montre l'évolution. Tu dirais aujourd'hui, au démarrage, il y a eu la sidération, tout le monde s'est dit c'était formidable, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire au sens premier du terme. Mais finalement, aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que finalement, ce que disait Elon Musk, l'homme va devenir le toutou de la machine?
Oui, alors ce qu'il y a d'intéressant, tu vois, c'est que oui, il y a eu la sidération. Alors, il y a eu la sidération, mais tu vois, c'est intéressant parce que il y a eu la sidération au sein d'une certaine partie de la population mondiale, parmi très souvent les plus âgés. Parce que les plus jeunes ont plutôt vécu ça comme à travers une adoption de masse et extrêmement rapide. Sur les campus universitaires, par exemple, ça a été complètement viral. Les étudiants se sont emparés de l'outil, qui en plus était en version gratuite au début. Et alors, ça a été vraiment un tsunami sur les campus universitaires. Là où ça a été plus sujet à questionnement et puis comme tu dis à sidération, c'est plutôt dans les entreprises. Donc les entreprises et les gestionnaires, les collaborateurs, qui progressivement hein, se sont mis à l'utiliser et progressivement à découvrir la puissance de l'outil. Et la puissance de l'outil sur leur propre périmètre. Pour peu que tu te sois retrouvé pour les premières utilisations qui ont été vraiment impactantes sur la génération de texte ou de la traduction, de la génération de texte qui pouvait être utilisé pour des scénarios, de la génération, on n'était pas encore très bon sur la génération des vidéos, mais tout ce qui était, même ce qui était images, pour de la génération d'images sur des postes créatifs, il y a eu une mise à niveau de l'utilisation d'un outil logiciel pour un très grand nombre de professionnels d'entreprise qui se sont questionnés effectivement sur leur poste et puis a raison, parce qu'on a
Bien
vu
sûr.
effectivement qu'il y a eu des restructurations, il y a eu des réorganisations entières à l'intérieur de certains secteurs. Il y a même eu à un moment donné une grève à Hollywood de la part d'un certain nombre de créateurs de contenu, de cinéastes. Il y a eu pareil du côté des journalistes, avec toutes les questions que ça pouvait poser les journalistes, les auteurs, sur les sujets des faux, du plagiat, et des méthodes pour vérifier qui était véritablement à l'origine du contenu qui était généré, que ce soit du texte, des audios, des vidéos. Et donc.
Toi, justement, qui as ce regard international, je trouve qu'en Europe, on pose beaucoup la question du plagiat, du droit, de la réglementation, l'IA Act, des choses comme ça. Donc, il y a un corpus important de droit et ils insistent moins sur les usages. Alors, j'ai le sentiment que dans d'autres pays, dans ces cas-là, les gens se disent, bon, le droit va venir, mais d'abord, pratiquons. Voyons les opportunités qu'on peut avoir. Est-ce que tu as ce sentiment aussi ou non?
Oui, tout à fait, là, complètement. Surtout c'est toujours plus simple de regarder un objet de l'extérieur que de le regarder lorsqu'on est à l'intérieur. Donc c'est plus facile d'observer un continent de l'extérieur ou un pays de l'extérieur que quand on s'y trouve. Mais je suis totalement alignée avec ton sentiment ou ta perception. C'est sûr que sur le continent nord-américain, il y a eu une appropriation qui a été rapide. Tant à l'intérieur du tissu de recherche que du tissu industriel. Universitaire éducation, c'est un peu différent. On pourra en venir par la suite, mais effectivement, là, il y a eu une appropriation parce que sur tant donc continent américain et puis continent asiatique également. La Chine, l'Inde,
L'Inde,
ça a été une appropriation extrêmement rapide.
oui.
Et
Même l'Afrique, je trouve qu'ils sont de plus en plus, quand ils ont les possibilités de connexion, ils se disent, ben, je l'utilise, à la limite, je ne suis pas gêné par la réglementation, d'abord qui n'existe pas en Afrique souvent, mais voilà, mais ils sont de suite dans l'usage.
Tout à fait, ouais. Non, c'est très juste. Je pense, en fait, il y a deux éléments. Après, selon moi, ça s'explique par plusieurs facteurs. L'un des facteurs, c'est bien évidemment la culture et puis l'héritage culturel slash historique, notamment pour l'Europe, qui a amené, et encore une fois, je pense, en lien avec la Seconde Guerre mondiale et avec la nécessité de préserver ce qu'on appelle la vie privée. D'éviter que les données personnelles ne puissent tomber entre des mains d'organisations et ou voire de gouvernements qui pourraient les utiliser à des fins inconnues, voire à des fins malveillantes. Donc il y a, je pense, cette mémoire collective qui est très présente en Europe et qui a amené d'ailleurs dans un premier temps RGPD. Et ça, l'Europe a été assez pionnière par rapport à ça et c'était une excellente démarche. Et puis, parce que l'Europe était très en amont grâce au cadre RGPD, c'est aussi la raison pour laquelle l'Europe a réagi très rapidement en positionnement l'IA Act. De l'autre côté, quand tu regardes d'autres continents, typiquement, tu vois ici Amérique du Nord, notamment là où je me trouve aujourd'hui au Canada. Le Canada était très en retard sur la réglementation en matière de protection des données personnelles. Encore en 2021, c'était quelque chose qui restait à mettre en place, 2020-2021, qui a été mis en place quasiment au moment de la Covid parce qu'il y avait cette digitalisation accélérée et qu'il y avait toutes ces questions de vie personnelle qui commençaient à voir le jour, alors qu'en Europe, ça faisait déjà un certain nombre d'années que les choses avaient été lancées. Donc il y a déjà, tu vois, pour moi, cette différence culturelle qui est très héritée du conflit, enfin des deux conflits mondiaux, mais surtout du deuxième conflit mondial qu'on a vécu, puis qui a marqué les consciences. Et en ça, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Parce que, et puis je pense qu'on le voit aujourd'hui à travers, même si c'est, je pense, un épiphénomène, je l'espère, ce qui se passe pour la compagnie Anthropic, où le CEO Dario Amodei refuse de collaborer avec le département militaire des États-Unis sur la partie de communication des informations personnelles qui pourrait mener effectivement à de la surveillance de masse de la population américaine, etc. Donc c'est intéressant parce que on voit là en fait que c'est une compagnie qui décide de mettre un veto sur l'utilisation de sa solution pour préserver des droits qui sont des droits citoyens. Alors que finalement, ce qui s'est mis en place en Europe, c'est que c'est la Commission européenne qui a généré cette réglementation pour préserver les libertés fondamentales et les droits des concitoyens en amont de l'utilisation par les entreprises et qui l'imposent aux entreprises. Donc ça, tu vois, c'est premier élément sur la protection des données personnelles. Je pense que c'est véritablement une excellente chose. Ensuite, très certainement que ça a freiné, ça c'est sûr, ça a freiné malheureusement, mais je pense pas que ce soit le seul élément. L'introduction, l'intégration des solutions dans les entreprises. Ça l'a pas facilité. Mais ceci dit, je ne suis pas persuadée du tout que ce soit la raison pour laquelle il y a un certain retard aujourd'hui de l'Union européenne en matière de géants de l'IA. Les géants de l'IA, effectivement, ils sont nés au cours des 10 dernières années. Les géants industriels de l'IA sont nés au cours des 10 dernières années. Ceci dit, sur le territoire européen, on avait la chance d'avoir, depuis les années 2000, notamment en France, dans la vallée du Rhône, le centre en micro et nanotechnologie qui s'est voulu pendant de nombreuses années l'équivalent de la Silicon Valley américaine et qui a eu à un moment donné la possibilité de réunir également des acteurs industriels extrêmement puissants. Les Soitec, Atmel, STMicroelectronique étaient présents dans la vallée du Rhône à Grenoble. Je pense que la différence et ce qui a joué dans le fait que aux États-Unis, puis bon, la Chine, c'est encore un cas encore différent, mais Que aux États-Unis, il y a eu l'essor économique et puis l'apparition de ces géants de l'Internet, puis de l'IA, là, tel qu'on les voit aujourd'hui, c'est l'investissement. Et c'est l'investissement en termes de VC, c'est-à-dire de venture capitaliste. L'investissement privé notamment, et la prise de risque est beaucoup plus importante en Amérique du Nord qu'elle ne l'est en Europe. Et ça aussi, c'est des raisons aussi historiques. C'est ce qui fait qu'il y a très peu de licornes qui naissent en Europe, notamment dans l'Hexagone, alors que quand tu regardes sur le secteur américain, Sam Altman, personne ne le connaissait avant qu'il ne soit à la tête de ChatGPT. Dario Amodi, pareil. Les États-Unis et puis l'Amérique du Nord ont cette caractéristique et cette capacité à faire naître des chefs d'entreprise qui deviennent des milliardaires et qui ne sont pas des héritiers de milliardaires. En
Est-ce
Europe,
que
c'est un peu
finalement
plus
ça,
compliqué.
pour la France ou pour l'Europe, c'est pas ça clôture pas les choses. Je prends un exemple, OpenClaw par exemple, qui vient d'être acheté pour 1 milliard. Donc c'est un Autrichien qui l'a créé, donc une vraie révolution sur les assistants numériques. Quand ils voient une pépite et qu'ils ont les moyens, ils achètent, ils mettent 1 milliard, ils récupèrent, alors qu'il était tout seul, il n'y a pas de salarié, rien. Donc quand on a les moyens, finalement, on a gagné, quoi.
Tout à fait. Ah bah, quand tu en as les moyens et puis que aujourd'hui on est dans ce que certains caractérisent d'une bulle, hein, très très clairement, parce qu'il y a aussi toutes les caractéristiques de marché d'une bulle financière. Oui, tu peux complètement te positionner sur les acquisitions qui te paraissent être les plus profitables. Et puis là, aujourd'hui, il y a véritablement une survalorisation des actifs du secteur de l'IA. On le voit avec des acteurs comme Elon Musk, on le voit avec la valorisation de Nvidia l'année dernière, enfin il y a
Exactement.
2 ans et puis encore l'année dernière.
Et si je me rappelle bien, Nvidia, il y a 10 ans de ça, ils étaient en faillite.
Ah ben,
Voilà,
totalement.
donc
Ouais,
ça
ouais.
montre qu'on passe de rien à tout, quoi. Voilà, alors, si on revient
Totalement.
justement dans l'entreprise, tous ces changements-là sont énormes. Les entreprises sont un peu réservées. Elles se disent, je vais réinventer toute mon entreprise. Autant garder et c'est là où il y a de la résistance, c'est qu'ils se disent, on a un modèle avec des métiers qu'on connaît bien, des référentiels qu'on a identifiés, et d'un seul coup, on dit, l'IA nous remet à plat tout ça. Finalement, c'est très compliqué de tout transformer, de disrupter, comme on dit aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué, tout à fait. Et c'est là, tu vois, qu'on peut revenir sur la deuxième partie de la question que tu me posais tout à l'heure, à savoir évolution ou révolution. Et pourquoi c'est compliqué? Bah parce que clairement, la réponse, c'est révolution. Mais c'est révolution au sens de révolution industrielle accélérée. On a vécu des révolutions industrielles, et puis on en a eu trois grandes qu'on est capable de caractériser, et puis encore une fois, a posteriori, donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, toi et moi, on est capable d'analyser des dizaines d'années, voire des siècles de l'histoire de l'humanité, et de dire, OK, on a eu la révolution industrielle qui a commencé à la fin du 1700 à 1780, et puis ensuite, on est capable de les décomposer. Et elles ont duré effectivement plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, cette technologie est capable en un temps record, donc de manière très très compactée, c'est même pas condensé, c'est très compacté, de transformer des secteurs industriels entiers. Pourquoi? Parce que elle se positionne sur l'intelligence humaine, donc la connaissance, le savoir, la capacité à prendre des décisions, et que là où auparavant, dans les précédentes révolutions industrielles, on avait inventé des technologies qui, sur les dernières, hein, si on prend l'automatisation, venaient remplacer des facultés humaines opérationnelles, et donc sur lesquelles, quand on remplaçait un humain par la machine, bah, l'humain en question ou les humains qui allaient venir par la suite, on allait les former sur des métiers qui étaient à plus forte valeur ajoutée que ce que la machine ne savait faire. Donc c'est là où progressivement on est passé pour beaucoup à des économies du savoir et puis à des économies de ce qu'on appelle l'école blanche. Là, le fait est qu'avec l'intelligence artificielle, on est en train de développer des solutions dont on vise aujourd'hui qu'elles atteignent le niveau d'intelligence humaine. C'est la fameuse IAG, intelligence artificielle générale. Sur la même logique que celle que je viens d'expliquer, à partir du moment où on est capable d'avoir des machines qui vont atteindre notre niveau d'intelligence cognitive, c'est-à-dire en termes de compréhension de questions, compréhension de problèmes, analyse de contexte et prise de décision, avec une puissance computationnelle, une puissance de calcul qui dépasse la nôtre aujourd'hui, et puis ça, chaque utilisateur des solutions d'IA générative peut le constater, eh bien en fait, on peut se poser la question à partir du moment où j'ai une machine qui atteint le niveau d'intelligence cognitive de l'être humain, si cet agent humain en entreprise, il ne fait que mobiliser son intelligence cognitive, effectivement, il va pouvoir être remplacé par une machine. Tant dans des pays dans lesquels il y a un déficit de main-d'œuvre, ça c'est évident que dans ce type de contexte économique, déjà l'intelligence artificielle apparaît comme une solution pour combler les déficits de main-d'œuvre, que dans des pays dans lesquels il y a des très fortes charges sociales, parce que ça va nous coûter beaucoup moins cher d'utiliser une machine que d'utiliser un être humain, que de positionner un être
Oui, mais
humain.
est-ce que justement le fait de dire la machine devient aussi intelligente que l'homme à quelque chose près, physiquement avec l'IA et la robotique, on va avoir de l'IA physique, comme dit Jensen Yang, ça veut dire que l'homme, il lui reste quoi? Autrement dit, est-ce qu'à force d'externaliser sa connaissance, finalement, il ne devient pas idiot?
C'est une bonne question. Il y a encore deux questions dans ta question. L'homme devient quoi? Et puis, est-ce qu'il ne devient pas idiot? Alors, les deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que devient l'humain? Enfin, que deviennent les êtres humains dans des organisations, voire des sociétés où finalement une grande partie des agents humains utilisés dans les entreprises aujourd'hui, employés dans les entreprises, pourraient être remplacés par des agents IA, ce qu'on appelle en fait déjà aujourd'hui des experts-machines. Que ces experts-machines soient sur un téléphone portable, sur un ordinateur, ou soient effectivement dans un robot humanoïde, parce que ça va être plus simple, parce que ça va être plus pertinent pour le rôle qu'on va lui attribuer. À partir du moment où effectivement on comprend que ça n'est pas un scénario digne de la science-fiction, que c'est réel, que ça fait partie aujourd'hui des réflexions économiques et sociales d'un certain nombre d'entreprises et même d'un certain nombre de gouvernements. Hein, le gouvernement britannique est complètement en train de réfléchir à ce genre de questions. Et que ça les amène d'ailleurs à réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle le revenu minimum universel. Qui n'est plus du tout un scénario science-fiction, qui est un scénario qui est véritablement étudié aujourd'hui par un très grand nombre d'experts, et sur lequel d'ailleurs Sam Altman à OpenAI a lancé une étude il y a 3 ans de ça pour identifier les impacts de la mise en œuvre du revenu minimum universel, donc avec différents résultats, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Donc déjà, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que on est en train d'avancer vers des modèles de société qui effectivement seront différents d'un point de vue économique et social aux modèles de société tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui reposent sur ce qu'on a appelé le contrat social, qui a été mis en place au moment des Lumières, siècle des Lumières, Rousseau, Montesquieu, qui mettent en place ce fameux contrat social et qui nous a permis en fait de construire les sociétés dans lesquelles nous vivons, toi et moi, et qui repose sur le fait que nous avons une activité professionnelle, nous signons un contrat avec une organisation, soit la tienne, soit une autre extérieure. En échange de notre temps, de notre expertise, de notre énergie, nous recevons une rétribution qui nous permet de pouvoir nous nourrir, payer un toit sur la tête, les études de nos enfants, etc. Et puis de devenir des citoyens qui vivront en paix. Voilà, c'est la base des sociétés, notamment démocratiques. Ce contrat social est en train d'être revisité et transformé du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le revenu minimum universel, il ne sera peut-être pas appliqué pendant toute la vie de l'individu, hein,
Mais
c'est
alors, l'idée du revenu minimum universel, qui est une idée ancienne, repose sur un postulat, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait homme, puisqu'on parlait de l'intelligence humaine, en lui disant si on lui libère du temps, finalement, il va pouvoir devenir plus intelligent, plus quelque chose comme ça, développer des fonctions hautes de l'homme. Or, la réalité, on s'aperçoit que plus on dégage du temps, plus on passe du temps derrière Netflix ou dans le gaming, et donc on s'occupe l'esprit, mais finalement, c'est là où les gens disent on devient idiot.
Alors c'est intéressant parce que les études qui sont menées aujourd'hui justement sur, et qui sont des études empiriques, hein, sur la mise en pratique du revenu minimum universel et qui ont consisté à prendre sur une population de 3 000, 10 000 personnes, à les scinder en deux groupes et à donner un revenu additionnel en fait à l'un des groupes. Montre que, contrairement à ce que l'on au début de tendance que l'on voit apparaître quand c'est pour une période courte et indéterminée, à partir du moment où ça prend sens pour une période déterminée, en fait, les individus mettent en place des stratégies où ils vont utiliser cet argent additionnel soit pour se former, soit pour donner donc l'argent pour se former et ou pour construire plus de richesses. Donc ça, c'est intéressant. Et également, ils vont utiliser le temps additionnel qu'ils peuvent avoir pour donner à la société. Et pour créer également dans le domaine artistique et ou dans le domaine, dans le domaine des sciences pour ceux qui ont des connaissances dans ce domaine-là. Donc c'est ça qui est intéressant,
Ouais, bien
c'est
sûr.
que les résultats des recherches qui sont menées aujourd'hui sur ce revenu universel, sur ce revenu minimum universel, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, montre que, bah, écoute, il y a encore plein d'espoir dans l'homme et que dans l'humanité, parce que cette question du sens, finalement, elle est adressée, bien évidemment, dans ce genre de cas. Et ce qui apparaît, c'est que l'homme a cette capacité à se renouveler et à renouveler ce sens, en remettant du sens dans d'autres activités que l'activité travail. Mais c'est sûr que pour un certain nombre de personnes, ça va nécessiter un accompagnement. Ça, c'est certain. Et puis là, on parle des gens en activité, tu vois, comme toi et moi, qui avons déjà une carrière depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi le cas des jeunes universitaires ou des jeunes qui sont en
Bien sûr.
études et qui vont sortir avec leur diplôme, mais dans ces sociétés qui
Est-ce
sont.
que tu conseillerais, comme Laurent Alexandre et Olivier Babeau, dans son l'ouvrage qu'ils ont sorti, en disant arrêtez de faire des études?
Alors, non, moi je pense que si, j'ai pas lu l'ouvrage, j'ai vu qu'il avait fait grand bruit dans l'Hexagone, mais le titre
Parce
m'a fait
que
sourire.
pour le résumer, c'est-à-dire ce qu'on enseigne justement dans l'université, pour prendre cet exemple-là, ce sont des formats et des formations qui sont déjà obsolètes au moment où on les enseigne. Alors que si on apprend à être entrepreneur de sa vie, par exemple, on se lance et il y a peut-être une aide, un accompagnement possible. C'est ça un peu grosso modo son idée.
Tout à fait. Non, mais j'avais compris que le titre était un petit peu challengeant et puis
Bien
qu'appel à
sûr.
ton coup, c'est super et puis que très certainement l'idée était celle-ci derrière. Oui, sur le constat que. Alors, moi, je dirais pas arrêter de faire des études. Je dirais deux choses. Je dirais aux plus jeunes, enfin aux jeunes qui sont actuellement en études ou qui vont y rentrer, et surtout à leurs parents qui les accompagnent, faites en sorte de développer un maximum d'activités extrascolaires dès aujourd'hui, de vous impliquer dans des associations, de faire du sport, de mener des projets pour développer votre connaissance de vous-même, déjà. Apprendre à bien se connaître. Apprendre à bien se connaître et notamment apprendre à développer ce qu'on appelle l'intelligence socio-émotionnelle. Parce que ça va être l'un des éléments clés, hein, c'est l'une des compétences clés du 21e siècle. Et comparativement aux machines, ce qui va nous différencier des machines intelligentes qui auront peut-être notre niveau d'intelligence cognitive, c'est notamment notre intelligence socio-émotionnelle. Donc ça, c'est le premier élément, moi, que je leur dirais de travailler. Deuxième élément à travailler, bien évidemment, je les inviterai à travailler ce qu'on appelle le apprendre à apprendre, c'est-à-dire cette capacité à apprendre de tout sur n'importe quel sujet, que ce soit l'anthropologie, la physique quantique, tout. Et pour ça, pour le apprendre à apprendre, bah ça se fait sur la base de la curiosité, mais ça se fait aussi sur la base de la résilience. Donc, et la résilience, ça se travaille pas que de manière académique. Ça se travaille à travers le sport. Ça se travaille au-delà du sport, n'importe quelle activité qui va nécessiter de la part de l'individu, de la discipline et de la volonté à se dépasser, au dépassement de soi. Et puis ensuite, ça va nécessiter également une capacité de pensée complexe, donc ce qu'on appelle raisonnement simple, raisonnement complexe. Et c'est là où, du coup, il est tout de même indispensable que les jeunes aujourd'hui qui sont en études à l'université ou dans l'enseignement supérieur comprennent que un socle fondamental de connaissances, c'est indispensable, de connaissances académiques, c'est indispensable de l'avoir en tête. Parce que sinon, ils vont se retrouver extrêmement vulnérables face aux machines. Parce qu'ils ne seront pas capables de remettre en question les solutions qui seront proposées ou générées par les machines. Et lorsqu'un être humain est vulnérable, il perd son empowerment, il perd de sa puissance. Et un être humain qui perd de sa puissance, bah, c'est un être humain qui perd sa confiance en lui et qui n'est pas capable de s'imposer en société et de construire sa vie. Et c'est l'opposé de ce qu'on veut créer avec les plus jeunes. Donc, et puis voilà, donc après, tu as forcément aussi d'autres compétences, mais
Bien sûr.
Donc ça, c'est...
Est-ce que tu dirais que c'est le rôle de l'entreprise, puisque chacun aura une puissance personnelle augmentée, mais la puissance personnelle ne donne pas l'envie de faire. Et donc c'est au rôle de l'entreprise de remettre en société, autour d'un projet, un développement d'idées, et cette puissance que chacun a pour que justement il puisse faire. Et donc ça donne un bel avenir pour les entreprises, une belle perspective de stratégie.
Oui, alors... Certainement que l'entreprise que les entreprises ont là un sujet de réflexion sur l'envie slash la motivation des gestionnaires et que le leader a un rôle très fort à jouer à ce niveau-là. Ça, c'est évident. Et que les leaders d'aujourd'hui, qui sont déjà des leaders qui dirigent des combos hein, hybrides, hein, humain-machine, hein, c'est l'ère du management hybride aujourd'hui, c'est sûr que ces leaders, ils ont parmi leurs challenges le fait de motiver ou de remotiver, de redonner du sens et un drive aux agents humains. Ça, c'est certain. Donc oui, les entreprises, mais certainement aussi les universités, slash pour les plus jeunes, les écoles d'enseignement supérieur. Parce que ce sens, si l'être humain ne le trouve pas dans le travail, il va falloir qu'il le trouve ailleurs. Et donc du coup, il faut le travailler, il va falloir le développer relativement tôt.
C'est là où tu reprendrais l'idée de Rick Kurzweil de la singularité, un nouveau rapport à la machine pour libérer l'homme ou pas. Tu dis, c'est pas mon univers.
Je suis toujours assez, c'est pas mal à l'aise, mais je trouve que le concept de la singularité, il est extrêmement intéressant parce que il est à la fois intéressant, mais pareil, un peu à prendre avec beaucoup de précautions, tout comme l'image de la création, enfin cette peinture de Michel-Ange, parce que l'avantage que présente le concept de la singularité, c'est que ça pointe un moment. Et puis en fait, l'esprit humain a besoin de comprendre qu'il y a un moment qui apparaît un peu comme un moment de bascule. Bon, même si on sait que ça va pas basculer là en l'espace d'une nuit et puis qu'on va se réveiller le matin et puis hop, tout aura changé. Mais ça va prendre très peu de temps. Donc en fait, nous, nos vies humaines, elles sont toutes petites à l'histoire à l'image de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quasiment une nuit en fait ce qui est en train de se passer. Donc ce que j'aime bien dans le concept, effectivement, c'est ça, c'est le fait que ça représente un espèce de point de bascule. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est le fait d'appuyer sur ce nouveau rapport entre l'humain et la machine. Ce qui me semble le plus... Enfin, moi, ce que j'essaye à chaque fois de faire ressortir à travers ce concept, c'est les questionnements que cela amène sur qu'est-ce qui nous rend humains comparativement aux machines. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, tu vois, dans mon livre, moi, j'ai vraiment voulu aborder ce sujet de l'intelligence humaine. Si l'intelligence humaine, on ne la cantonne que à nos habiletés cognitives, on va être effectivement dans une situation extrêmement complexe. Si on essaye aujourd'hui déjà de d'élargir ce qu'on appelle l'intelligence humaine, qu'il faut très certainement revisiter, là, ça devient intéressant parce que finalement, les machines nous amènent par leur présence à de nouveau nous intéresser à nous-mêmes. Puis en fait, l'être humain a une faculté extraordinaire à s'intéresser au monde qui l'entoure sans s'intéresser parfois en une vie à lui-même. C'est fascinant. Parce que c'est bien plus facile, en fait, de s'intéresser à l'extérieur et au monde qui nous entoure et de l'étudier et de le décortiquer que de se poser soit avec soi-même. Ça peut être extrêmement challengeant.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. C'est une très très belle conclusion. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet échange parce que je le trouve riche, plein de rebondissements, une vraie belle mise en perspective. Ceux qui t'aiment bien, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Ils peuvent me contacter via mon adresse email delphine at edu2050.com, EDHU 2050, donc 2050.com. Ils peuvent aussi me contacter sur LinkedIn, Delphine Le Serre. Je fais toujours en sorte d'essayer de répondre aux messages, même s'ils sont nombreux.
Merci beaucoup Delphine, Delphine Le Serre. N'hésitez pas à la suivre et à lui poser toutes les questions que vous n'avez pas pu lui poser en direct. Merci beaucoup, au revoir à tous, bye bye.
Merci Stéphane.